Il est 14h05, l'heure de retrouver CO2, mon amour, avec vous, Denis Chessou. Vous allez nous parler aujourd'hui de la fin du tout voiture.
Voilà, c'est pas la fin de la voiture, hein, Dominique Delarroix, mais bien la fin du tout voiture, donc d'autres possibilités. Évidemment, si on vit à la campagne, là c'est plus compliqué, mais ça va être le thème avec Frédéric Denré. Merci, on vous retrouve pour les informations de 15h.
Qu'est-ce qu'il y a?
Elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
C'est pas grave,
vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, on va plus voir.
Hein? Ah, vraiment. Il y en a qui marchent pas de culot. Avec sa grosse bagnole.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. Vous l'avez bien compris, avec ce petit résumé du corneau de la voiture, on va passer piéton. Bon, c'est pas si simple que ça, mais ce sera donc le thème de cet après-midi. Nous travaillons aujourd'hui avec Ludovic Asselot et Alexandre Abergel à la technique et assisté de Séverine Bouvard. Sans oublier Albert Houck, c'est Fabrice Lègle qui réalise l'émission. Allez, tout d'abord une petite humeur, puisque la semaine dernière, une réunion de la plus haute importance qui se tenait sous l'égide de l'ONU est passée à peu près inaperçue. Elle entrait dans le cadre du traité international de l'ONU sur les semences. Autrement dit, il y fut question des conditions selon lesquelles l'humanité va pouvoir continuer à casser la graine. Et oui, cette fois, à l'inverse de ce qui se passe ordinairement à l'OMC sur le même sujet, à savoir comment permettre aux grands groupes agro-industriels d'engranger sans cesse plus de blé, eh bien, les droits des paysans ont été réaffirmés, notamment celui d'échanger et de vendre leurs semences, quitte à entrer en conflit avec cette manie de vouloir breveter le vivant, cher aux grands groupes en question. Alors ce qui est savoureux dans cette affaire, c'est que la France éternelle et humaniste en a naturellement pris de la graine et s'est empressée de signer dès demain une résolution aussi chargée d'éthique, mais sans renoncer pour autant à ces lois hexagonales. Voilà, lois qui d'une part interdisent les échanges de semences entre agriculteurs et d'autre part imposent aux semences paysannes les standards des semences industrielles afin d'empêcher leur commercialisation. Incohérence, c'est pas impossible, mais tout se résume peut-être à du Shakespeare, lobby or not lobby, c'est la question. Autre événement tout à fait récent, le lancement officiel du réseau 4G de Bouygues avec la bénédiction des autorités gouvernementales. Fleur Pellerin, ministre déléguée à l'économie numérique, a en effet pris son bâton pour favoriser le déploiement de plusieurs milliers d'antennes relais supplémentaires sur tout le territoire. Bon, apparemment le bâton de la ministre possède aussi un autre usage, c'est peut-être celui de taper un peu sur les électrosensibles. Vous savez, ce sont des gens qui sont réfractaires au progrès et qui présentent toutes sortes de troubles, parfois sévères, rien qu'à apercevoir une antenne relais dans le lointain. Alors, précisément, les plaintes des électrosensibles et de riverains, et maintenant sont de plus importantes, de riverains d'antennes s'amplifient. À mesure que les dites antennes se mettent à pousser comme des champignons, vous me direz, à l'automne, c'est tout à fait normal. Ces opposants, en fait, regroupés en associations, pointent en particulier le fait qu'aucune étude d'impact sanitaire n'a été diligentée sur la 4G. Bah oui, ce que je vous redis là, c'est pas exactement un scoop, hein. Devant la question économique, c'est vrai que la santé ne fait pas exactement le poids. Surtout en matière de téléphonie mobile, qui est un de nos rares relais de croissance. Bon, et puis la 4G, ça sert à quoi vraiment? Alors attention, c'est du sérieux, hein. C'est du vital, c'est de l'indispensable, bien plus que le point G. Oui, il s'agit de télécharger encore plus vite. Il s'agit ni plus ni moins de développer le débit vidéo internet pour permettre entre autres la diffusion du championnat de France de foot sur les téléphones portables, grands comme un carnet de timbre poste. Alors à votre avis, qui va gagner la course effrénée? La consommation ou le principe de précaution? Et nous allons maintenant aborder donc le thème du jour. Vous imaginez un jour d'hiver assez neigeux du côté de Brunois, commune cossue du Val-de-Marne. Les rues sont immobilisées, sans bruit à cause de la neige, et les gens se réapproprient ce monde interdit. Ils marchent sur la route. Et là, toutes les questions sont arrivées dans la tête de Frédéric Dant. Et pourquoi s'endetter pour une voiture neuve qui perd le cinquième de sa valeur aussitôt qu'elle sort du concessionnaire? Pourquoi une auto dimensionnée pour les seules vacances? Comment éventuellement faire autrement? D'où ce livre qui fait le point. Donc il est écrit par un de nos intervenants tout à fait récurrent. Bonjour Frédéric Dant.
Bonjour Denis Chessou.
La fin du tout voiture, c'est votre dernier essai qui vient de sortir chez Actes Sud. Peut-être nous écoutez-vous grâce à un autoradio, ce qui d'ailleurs nous fait tout à fait plaisir. Bon, déjà dire tout de suite que la fin du tout voiture, c'est pas un bouquin qui est anti-voiture.
Non, c'est pas la fin de la voiture. La voiture continuera à exister, à rouler, et heureusement pour les gens et la majorité des gens, nos concitoyens qui nous écoutent et qui n'habitent pas dans des zones denses. C'est pas la fin de la voiture, c'est la fin d'un certain usage de la voiture qui a conduit la voiture à avoir un monopole général sur la façon que l'on a de se déplacer. C'est bien la fin de la voiture pour tout déplacement à l'échelle de la France et pas seulement de l'Europe et de la plupart des grandes villes occidentales.
Alors, rappelez-nous quand même comment la voiture est née et pourquoi en fait l'essence a gagné, on peut même dire à l'arraché pour reprendre le titre d'un de vos chapitres.
Oui, on n'imagine pas qu'il y a un siècle, il y avait exactement les mêmes débats à Paris sur la voiture électrique qu'aujourd'hui. Il y a un siècle, au début du XXe, la plupart des taxis, même tous les taxis, la plupart des camionnettes étaient électriques. Dans les garages parisiens, on pouvait changer ses batteries, qui étaient des batteries au plomb, et on pouvait se recharger facilement. Pendant très longtemps, il y a eu une concurrence entre la voiture électrique, entre la voiture à vapeur, les meilleures s'appelaient les serpolettes, et la voiture à essence qui est arrivée un peu par effraction. Pourquoi ? Elle est arrivée au moment où on s'est aperçu que l'autonomie des batteries ne serait jamais suffisante pour que l'on puisse s'extraire des villes. Elle est arrivée, la voiture à essence, au moment où le pétrole est arrivé en masse sur le marché à peu près vers 1908-1910, grâce notamment à la découverte de gisements en Iran. Et puis elle est arrivée parce que Ford a industrialisé la voiture. La voiture est passée des mains de l'artisan à l'ouvrier. Le pétrole est arrivé. Le pétrole avait besoin d'un marché. La voiture avait besoin d'un combustible. Le mariage s'est fait et ça aboutit aux tout voitures.
Alors Frédéric Dant, quel est le rapport entre, on va dire, Ford et Tintin en Amérique?
Ah ça c'est fascinant, regardez une des planches de Tintin en Amérique et vous voyez un bœuf qui rentre dans une machine et l'on ressort une saucisse. Ça c'était les abattoirs industriels de Chicago. Eh bien figurez-vous que Ford s'est inspiré des abattoirs industriels de Chicago, lesquels s'étaient inspirés des abattoirs industriels de cochons à Cincinnati. Voilà, merci. Ça lui a simplement donné l'idée de la standardisation et de la fabrication industrielle de l'auto. L'auto telle qu'elle est aujourd'hui, est née dans les abattoirs de Chicago.
Monsieur André Citroën et avait Monsieur Ford Henry. C'est le travail à la chaîne qui l'a ramené dans notre chère patrie. La France agricole devient industrielle grâce à des patrons comme lui. Les ouvriers se précipitent pied de Javel pour goûter les joies de ce progrès inouï. Plus de 100 à l'heure, des culbuteurs, carburateur inversé. La monocoque ouvre une époque, Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman, les beaux cardans homocinétiques. Voici les tractions avant, et au salon c'est l'affolement. Albert Lebrun, plein d'émotion, fait marcher le klaxon. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est la traction universelle.
Barris et Barrier, en fait, a presque tout dit, là. Donc.
Ils ont tout dit. L'industrialisation, la standardisation du travail, c'est pas Ford, c'est pas l'auto, c'est le bœuf à Chicago. Et je vous invite à lire un roman qui s'appelle La Jungle. Lisez-le, achetez-le, et c'est ça. Voilà, ce sont les abattoirs de Chicago.
Et quand même, André Citroën a été vraiment précurseur dans ce domaine aussi, chez nous en France.
Il a tout inventé. La voiture est née en France, faut pas l'oublier. La voiture est devenue mondiale grâce à Ford et aux États-Unis, mais la voiture est restée un objet de fascination, un objet de fascination, grâce à Citroën. Le vrai automobiliste dans le monde, c'est Citroën. C'est lui, ou plutôt son ingénieur Lefebvre et son designer Bertoni, qui ont inventé la traction avant, qui ont inventé la DS, la 4L, et la deux chevaux. Ils ont tout inventé, ils ont été copiés partout, et la DS reste une voiture mythique qui, dès sa sortie, est devenue un objet de design copié dans le monde entier. depuis, on ne peut pas dire que Citroën ait eu des grandes inventions, une grande inventivité sur le design, ni Peugeot. Mais voilà, l'âge d'or de la voiture, c'est Citroën. Citroën a presque tout inventé.
Et puis, ils ont aussi inventé la publicité. Donc, il y a eu la croisière jaune. Et alors, sur la tour Eiffel, qu'est-ce que l'on voyait?
Eh bien, on voyait Citroën, le C tout en haut, le N tout en bas au niveau du premier étage. Et pendant 8 ou 10 ans, je ne sais plus, Citroën se voyait des kilomètres à la ronde. Et sans ce Citroën, eh bien, Lindbergh n'aurait pas su qu'il était arrivé au-dessus des Côtes de France. Il a toujours dit que c'est grâce à Citroën, en gros, qu'il a pu atterrir. Sinon, bah, il aurait peut-être atterri n'importe où. Raison pour laquelle, quand il a atterri, après son premier vol transatlantique, la première visite qu'il a faite, hormis aux autorités, c'était aux usines Citroën de Javel.
Alors, Frédéric Danhé, toujours dans cet ouvrage « La fin du tout voiture », vous parlez des coûts qui sont de moins en moins cachés quand même pour l'utilisateur.
Mais le coût que l'utilisateur voit, c'est ce qu'il dépense à la station-service, c'est l'essence, c'est ce qui part en permanence de son portefeuille. Et donc, on estime, à juste titre, que c'est cher. En fait, ça n'est pas tant que ça, l'essence, quand on regarde bien, est à peu près moitié moins cher, à pouvoir d'achat égal, que ce qu'elle n'était dans les années 70. En fait, c'est un faux débat, l'essence. Le vrai coût de l'auto, il est caché, et ça, on commence à s'en rendre compte, c'est le coût de l'amortissement, c'est le coût des réparations, qui est extraordinairement élevé en France par rapport aux autres pays européens.
Une espèce de monopole, hein, quand même, sur les pièces détachées.
C'est ça qui est lié, en gros, à des histoires de droits d'auteur sur les carrosseries, les rétroviseurs, il faut que ça vienne de chez Renault, Peugeot, ouais. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est contre la législation européenne, mais ça continue en France, donc ouais. On paye toujours les pièces plus chères en France qu'en Allemagne.
30 à 40% moins cher en Allemagne.
C'est ça. Et en France, ça augmente, en Allemagne, ça baisse. Enfin voilà, tout est normal.
C'est normal.
Voilà. Non, faut savoir que pour une voiture d'occasion, le coût final, 37% du coût final, c'est l'entretien. Pour une voiture à essence, pour une voiture neuve, pardon, 42% du coût final, c'est l'amortissement. Vous voyez, au final, une voiture en France revient entre 3 et 7 000 euros par an, c'est-à-dire en moyenne, si on fait tous les comptes, entre 200 et 1 300 euros par mois. Si on compte tout, c'est-à-dire l'assurance, les parkings, les PV, tout, l'essence, tout. Voilà ce que ça coûte une voiture. C'est énorme, c'est 20% du budget des ménages. Et en périurbanité, c'est-à-dire dans les zones très lointaines, ça peut aller jusqu'à 40%. Et ça, ben, nous autres automobilistes, on commence à s'en rendre compte.
Parlez-nous aussi, Frédéric Danhé, donc de l'effet rebond dans le domaine de l'automobile. Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a une baisse des émissions de CO2. Les voitures sont beaucoup plus économes en énergie, mais peut-être qu'on les utilise davantage.
On les utilise un peu plus. Alors, oui et non, enfin, c'est surtout que... Alors, depuis 2005 à peu près, dans toutes les villes occidentales, il y a une diminution de la circulation automobile. Donc ça, c'est un signe que le tout voiture est en train de s'achever. Néanmoins, en même temps, on a acheté plus de voitures. Alors, ce n'est plus vraiment le cas depuis quelques années en France, mais au lieu d'avoir une voiture, on en a deux, voire trois. Donc les économies qu'on réalise parce qu'on achète des véhicules qui consomment moins... Eh bien, on les absorbe en achetant un autre véhicule ou éventuellement en roulant un peu plus. Ou alors, simplement parce qu'on fait des économies, on va faire un vol Paris-New York ou Paris-Agadir à la fin de l'année. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire, mais c'est très humain, on le voit partout. Oui. Hein, les économies qu'on réalise, on les investit dans quelque chose qui vient contredire l'économie réalisée. Je reviens sur les coûts cachés. C'est une forme d'effet rebond, si l'on veut. Les coûts... Pour la communauté européenne non couverte par les taxes, qui sont les coûts d'accident, les coûts de CO2, les coûts de pollution, etc., s'élève à 374 milliards d'euros par an.
Donc ça, c'est pour la collectivité.
C'est pour la collectivité. Chacun de nous, chaque Français, finalement, fait dépenser à ses voisins 750 euros par an. Ce sont des coûts qui ne sont pas couverts, ce qui veut dire que pour les couvrir, la Commission européenne, un jour ou l'autre, va taxer l'essence, en plus de tout ce qu'on sait déjà, à hauteur de 5 à 10 centimes le litre pour couvrir ces coûts.
On va parler aussi maintenant, Frédéric Danhé, de ce couple voiture et étalement urbain.
Ben c'est la Sainte Trinité qui a supporté les Trente Glorieuses, c'est la voiture qui a permis de s'émanciper. Il faut savoir, jusque dans les années 50, les Français ne faisaient pas plus de 5 km par jour.
Ah oui, donc pratiquement comme au Moyen-Âge, enfin maximum.
Ça n'avait pas changé. Avec la voiture, c'est devenu 50 km. Aujourd'hui, beaucoup plus. Ça a été un formidable outil de liberté. Un formidable outil de liberté pour aller se rendre dans un autre, à l'époque, formidable outil de liberté, qui était l'hypermarché. Enfin, on pouvait faire ses courses une fois par semaine et pas tous les jours. Et ça n'était possible que par le frigo. Parce que dans le frigo, on peut stocker des choses pendant une semaine, voire plus.
Donc, la Trinité, c'est voiture, frigo, supermarché.
Supermarché. D'accord. Et tout ça a entraîné, finalement, l'étalement urbain. Parce qu'avec la voiture, on peut aller plus loin, on peut aller se trouver un petit coin de nature, on peut aller se construire sa maison. Et donc on peut aller, voilà, les villes se sont étendues.
Le foncier est moins cher.
Le foncier est moins cher. Au final, ça reste très cher pour les automobilistes parce qu'ils ont le coût de la voiture. Pour les agglomérations, ils ont le coût de la voirie, des aménagements. C'est comme si vous voulez, les villes avaient, et l'État avaient abandonné toute politique d'urbanisme en la faisant payer par les automobilistes qui sont les seuls à en supporter le coût et qui vont en supporter un coût de plus en plus important avec les taxes qui vont arriver sur le diesel, etc. etc. Na, 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 na.
One, two, three. We won't set me free. Four, five, six. Tired of the crafty tricks. Seven, eight, nine. We won't give me what's mine. What you want from me, I gave to you. What I want from you, you won't give to me. What you want from me, I gave to you. What I want from you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 10, 11, 12. It's time now to help yourself. 30, 40, 15. I wanna get on the big scene. 16, 17, 18. I'm the one with a bullet. What you want from me, I give to you. What I want from you, you won't give to me. What you want from me, I give to you. What I want from you. Set me free. Four, five, six. Tired of your crafty tricks. Seven, eight, nine. Trying to give me what's mine. What you want from me, I gave to you. What I want from you.
Derrière un volant, il n'y a rien qui l'arrête.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Voilà, eh ben oui, on essaye un peu d'arrêter la voiture en ville avec un certain nombre d'initiatives. Et donc après Winston McAnuff, choisi par Thierry Dupont, notre programmateur. Petite précision quand même, la 4L, c'était pas Citroën, hein, c'était quand même Renault. On va se tourner vers Michel Duchesne, qui est adjoint à la mairie de Bordeaux, qui est chargé de la prospective et de la stratégie urbaine. Et ça nous intéresse bien, Michel Duchesne, de savoir comment une ville donc qui était surchargée de bagnoles il y a 15 ans, c'est vrai que Bordeaux était pour une ville très très agréable, est devenue une ville beaucoup plus calme et maintenant évidemment très agréable. Comment vous avez fait?
Ça a été difficile, oui. Ça a été parfois très très dur, mais ça a été un combat de tous les instants. En 95, quand Alain Juppé est arrivé, il a remis en cause une certaine logique urbaine. C'est vrai que auparavant, Bordeaux était une ville tout voiture. C'était la ville des Trente Glorieuses, ce n'était pas spécifique à Bordeaux. Mm-hmm. Dans ces années-là, la ville s'était adaptée à la voiture. Et il a voulu remettre en cause cette logique, remettre en cause cette culture. Il a tout d'abord remis en cause la création d'un métro souterrain, d'un val, et il a fait le choix d'un mode de transport en surface, c'est-à-dire d'un tram. Et ce choix a radicalement transformé la ville. La ville de Bordeaux étouffée sous le poids de la voiture, et la volonté était de lui donner sa juste place et de développer ce qu'on appelle aujourd'hui les transports actifs, qu'on appelait les transports doux à l'époque, donner plus de place aux piétons, aux vélos, aux transports urbains en général, en particulier aux bus, aux navettes électriques, aux navettes fluviales. Et la ville s'est complètement transformée. Il a fallu beaucoup de temps parce que c'est une culture qui a évolué, la culture des habitants de la ville. Et aujourd'hui, on n'est pas dans le cadre d'un projet, on est dans le cadre d'une réalisation. Bordeaux s'est complètement transformé. J'en veux pour preuve les études qui ont été menées par la communauté urbaine qui démontrent que les déplacements piétons dans le centre-ville sont plus importants que les déplacements en voiture ou en transport en commun. Et nous venons d'être classés quatrième ville au monde pour le développement de l'usage du vélo. La voiture n'est pas interdite dans Bordeaux, loin de là, mais elle a retrouvé sa juste place. Par exemple, dans le centre ancien, on parlait encore il y a quelques mois, quelques années des APA. Nous l'avons mise en place depuis de nombreuses années. Nous avons un secteur à contrôle d'accès qui permet seulement aux résidents de passer. Il fait 75 hectares, c'est l'un des plus importants de France et ça nous a permis de réduire radicalement les embouteillages et la pollution et de préserver ce quartier de centre-ville. Donc il faut une volonté très forte parce que les habitants ne comprennent pas toujours ces politiques, mais il faut un peu de temps pour qu'ils les comprennent et qu'ils en profitent d'une certaine manière.
Michel Duchesne, en fait, vous héritiez quand même de quelque chose d'assez lourd, parce que quand on regarde le plan d'agence d'urbanisme de l'époque, qu'est-ce qu'il voulait ? Eh ben, il voulait ouvrir les voies sur berge.
Oui, car l'agence d'urbanisme de l'époque était dans la logique du développement urbain de cette époque-là, c'est-à-dire donner une place de plus en plus importante à la voiture, et réduire les espaces piétons, réduire l'espace des transports en commun, et ce qui est spectaculaire, c'est les quais de Bordeaux. Car dans les années 70, l'agence d'urbanisme prévoyait de la façade des quais de Bordeaux jusqu'au fleuve, 18 fils de circulation. Et ça n'inquiétait personne à l'époque. Et le maire me rappelait il n'y a pas longtemps, rappelle-toi, à l'époque, il y avait déjà à certains endroits deux fois cinq voies. On est passé de ce projet de 18 fils, de cette réalité de parfois deux fois cinq voies, à aujourd'hui deux fois deux voies, plus une contre-allée, le tramway. Et ces quais qui étaient envahis par la voiture, qui étouffaient sous le poids de la voiture, il faut y venir maintenant, c'est un tramway, c'est une circulation apaisée, et c'est surtout des espaces dédiés au sport, à la culture, à la convivialité, aux œuvres d'art. L'aménagement des quais, à mon avis, est formidablement révélateur de ce que l'on peut faire dans les villes si on a la volonté politique, si on va jusqu'au bout.
Michel Duchesne, de toute façon, on est dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que maintenant, plus aucune ville, plus aucune métropole, plus aucun maire ne va donner de la place à la voiture, quoi qu'il arrive aujourd'hui.
Vous êtes optimiste. C'est un combat incessant, c'est un combat quotidien. Moi, je suis encore très étonné du nombre de personnes qui préfèrent avoir presque dans leur lit leur voiture plutôt que leur conjoint. C'est quand même extraordinaire ce poids de la voiture dans les villes. Il ne faut pas l'interdire. C'est un formidable instrument de liberté aussi, c'est vrai, la voiture. Mais dans les centres urbains, si on laisse la voiture se développer, on étouffe la ville.
Je m'excuse, madame. Je conduis depuis fort longtemps.
Oui, et alors ?
Et alors, en principe, je dis bien en principe, les freins sont faits pour s'arrêter.
Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Je suis arrêtée.
Oui, mais trop tard.
Oh non, enfin...
Le feu rouge est mis.
Alors Frédéric Danhé, parlons aussi maintenant de la chasse à l'auto qui est ouverte. C'était autant dans les années 60 après-guerre. Les villes se sont adaptées complètement à la voiture, et là maintenant on s'en rend très bien compte, avec d'ailleurs aussi l'exemple de Bordeaux que l'on vient d'entendre, c'est l'inverse.
Ah bah c'est fini, dans les documents d'urbanisme, les PLU par exemple, les PDU, les SCOT, etc., même les plans climat, depuis le Grenelle en particulier, la voiture n'est plus l'alpha et l'oméga du transport, la voiture n'est plus numéro un aujourd'hui, ce sont les transports public, les transports en commun et ensuite les modes doux que les maires, que les élus sont tenus de privilégier face à la voiture. Et ça répond à quelque chose de tout simple. Vous oubliez le CO2, c'est même pas ça. C'est un, c'est la pollution de l'air à cause du diesel. Et puis deux, c'est la loi de l'emmerdement maximal qu'est la voiture sur la voirie. La voiture occupe 70% de la voirie. Si vous calculez le temps que passe la voiture sur la voirie, hein, on en est à entre 60 et 70 fois plus qu'un piéton. Une voiture occupe un espace-temps 70 à 80 fois supérieur à un piéton. Et plus elle va vite, plus elle nécessite de la voirie. Hein, vous savez bien qu'un virage sur autoroute, il nécessite beaucoup plus de surface qu'un virage en ville. Plus vous allez vite, plus il y a besoin de voirie, plus l'espace occupé par la voiture est important. Et c'est devenu insupportable. Les villes sont saturées de voitures. C'est aussi simple que ça. C'est juste physique. Et donc, halte à la voiture. Et donc, on chasse la voiture, effectivement.
Donc, ça veut dire stationnement plus limité. Ça veut dire qu'on augmente le prix du ticket aussi, de stationnement.
D'où la réclamation des maires. Assez paradoxale. Hein. Les maires veulent, surtout en période électorale, ne veulent surtout pas fâcher l'administré. Non, ça ne se fait pas. Néanmoins, ils ont demandé ce qu'on appelle la dépénalisation du stationnement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pénalité si on ne paye pas. Ça veut dire qu'on n'est plus sur le code pénal. Ça veut dire que ce sont les maires qui fixent eux-mêmes le stationnement. Ah oui. Et quand vous voyez le prix
de la prune, c'est
le prix de la prune va augmenter beaucoup. Hein. Il n'avait pas changé depuis 10 ans, 17 euros à Paris, 11 euros en moyenne en France. Quand vous voyez le prix des prunes à Genève, Oslo et Londres, on peut atteindre la centaine d'euros facilement. Quand vous voyez le prix du stationnement, on est à 3, 4, 5 euros de l'heure. Vous imaginez très bien vers quoi on va arriver en France. L'idée, en fait, c'est de rendre rentable le ticket de bus ou le ticket du métro. Jusqu'à présent, dans notre imaginaire, il est toujours beaucoup plus cher de prendre un bus que de stationner. Et il est toujours beaucoup moins cher de prendre une amende, de prendre un PV, que de prendre une amende dans le bus. Ben, ça va changer, c'est déjà dans cette politique de chasse à la voiture des maires.
Alors Frédéric Denry, on va poursuivre ce voyage, mais on va aller aux États-Unis cette fois-ci parce qu'on va s'intéresser au vélo. Oui, on fera une émission plus tard aussi sur le vélo en entier, mais ce qu'on observe, c'est une révolution du vélo qui est très intéressante. New York a lancé son offre de vélo en libre-service, ça c'était au mois de mai. Et la ville du vélo, c'est quand même Portland. Donc nous sommes dans le nord-ouest des États-Unis, nous sommes dans l'Oregon. Et Anne-Cécile Bras, ma consoeur qui est productrice de l'émission « C'est pas du vent », émission sur l'environnement des RFI, a rencontré Rex Buckcorn, qui fut le conseiller communautaire de l'agglomération en charge des transports de 2000 à 2012.
Le changement est visible dans tout le pays. Il repose d'abord sur des motivations économiques. C'est beaucoup plus cher de conduire une voiture. Les jeunes utilisent la technologie des smartphones pour rencontrer leurs amis au lieu de prendre la voiture. C'est aussi cool de faire du vélo. Quant au gouvernement, il a réalisé que c'était très cher de construire des infrastructures pour la voiture. Alors que pour le vélo, c'est vraiment un très bon marché. Mais le plus important, c'est que les citoyens eux-mêmes le réclament. C'est là qu'il y a un changement majeur. Et c'est ce que Portland a amené. Des citoyens qui disent « C'est le vélo que nous voulons, écoutez-nous ».
New York a lancé son programme de vélo en libre service. Combien de villes se sont investies sur cet enjeu ?
Ce sont les grandes villes comme Chicago, New York, San Francisco. Mais c'est aussi à Omaha au Nebraska ou à Cheyenne dans le Wyoming, des petites villes. Les gens redécouvrent la vie urbaine en marchant ou en faisant du vélo. Et en plus, dans les États du Sud où la population vieillit, la génération du baby boom se met à courir. Et beaucoup d'entre eux utilisent le vélo pour faire de l'exercice et découvrent combien c'est amusant. Et c'est dans tout le pays. Les gens sont excités par l'idée d'être actifs et de faire partie d'une communauté.
Et est-ce que l'étalement urbain des villes américaines n'est pas un frein ?
C'est difficile parce que depuis 40 ans, nous construisons des villes avec des trottoirs et des voies rapides où il est compliqué d'aller d'un endroit à un autre parce qu'ils ne sont pas vraiment reliés, sauf par la voiture. Donc c'est très difficile. Les banlieues sont notre plus grand défi. Comment revenir en arrière ? Comment restructurer différemment pour que ça fonctionne ? Les plus vieilles villes ont été conçues pour la marche, n'est-ce pas ? Donc elles sont faciles à reconvertir. Il faut juste s'investir à fond. Le défi, ce sont donc les banlieues. Mais les gens ont toujours vécu dans des quartiers où les enfants devaient aller à l'école. Ils y allaient à pied il y a 30 ans. Aujourd'hui, la plupart sont conduits en voiture à l'école. Mais nous pouvons changer cela facilement parce qu'ils sont à côté. Et ça nécessite de l'éducation, des équipements et de la sécurité.
Portland, où vous avez été conseiller en charge des transports pendant une dizaine d'années, est aujourd'hui la ville phare, la ville de référence pour le vélo aux États-Unis. Comment est-ce que vous avez réussi à passer de rien du tout à l'engouement actuel ?
Nous ne sommes pas partis de rien. Il y avait des volontaires comme moi. J'étais un professeur de sciences au lycée. Je m'occupais aussi de mes enfants en tant que père de famille. Et de temps en temps, avec des amis, nous faisions du vélo. Et nous nous sommes dit que nous devions changer les choses. Donc nous avons attaqué la ville de Portland. Nous l'avons vraiment poursuivi en justice. Nous l'avons forcé à installer des équipements pour le vélo, où c'était nécessaire. Puis nous nous sommes organisés. Nous avons fait de la politique locale, en écrivant quotidiennement aux responsables. Nous avons organisé plein d'événements festifs. Des gens célèbres ont fait du vélo dans le centre-ville. Avant que la ville et le gouvernement ne s'en mêlent, tous les citoyens marchaient. Et là, le gouvernement s'est dit « Hey, mais les gens aiment ça ». Désormais, tous les politiciens ont une photo d'eux sur un vélo dans leur bureau. C'est systématique parce que les gens aiment la bicyclette.
Donc on peut dire que la dynamique vélo est lancée aux États-Unis, même si à New York ça a été un peu compliqué. Désormais, New York veut être la troisième ville la plus cyclable du monde après Yezhou en Chine et Paris.
Évidemment, New York veut être numéro un mondial de toutes les villes, dans tous les domaines. Mais c'est vraiment enthousiasmant. Le maire a engagé l'un des directeurs les plus performants en termes de politique de transport. Et il a dit, nous allons le faire. Ils ont construit 500 km de pistes cyclables en 4-5 ans. C'est incroyable. Nous, à Portland, nous avons mis 20 ans. New York, c'est New York. Mais il faut savoir que seulement 40% des New-Yorkais ont un permis de conduire parce qu'ils utilisent les transports en commun. Ils marchent. Maintenant, ils ont le vélo et c'est sécurisé. Donc je pense que New York va connaître un engouement incroyable pour le vélo parce que c'est plus rapide et plus pratique que le métro ou la marche. Et la plupart des personnes n'ont pas de voiture à New York. Donc c'est sûr, ça va marcher.
Et puis on n'est pas besoin d'être chargé comme une mule, non comme Alan Armstrong, pour faire du vélo aux États-Unis, non, vous inquiétez pas. Merci Anne-Cécile Brahin d'avoir retendu son micro de RFI aux bicyclettes. Nous poursuivons, et oui, avec Bruce Springsteen sur France Inter.
Screen doors and lamps, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that
Thunder Road, voilà, Bruce Springsteen, vive les éclairs. Donc des villes du vélo, on sait qu'il y en a beaucoup, hein. Vous allez à Amsterdam, Copenhague, des villes allemandes et puis même en France. Bon, faut se bagarrer encore, mais il y a un club des villes cyclables qui avance bien. Alors d'ailleurs, c'est aussi, Frédéric Denré, en fait, une question peut-être pour la voiture de représentation, hein, en fonction des tranches d'âge, des jeunes et des moins jeunes.
Alors, encore une fois, c'est des études, des observations, c'est les statistiques de vente, hein, de voitures dans le monde entier, enfin dans les pays occidentaux. La voiture n'est plus le totem social
d'une réussite.
C'est plus ça, notamment chez les jeunes et a fortiori chez les jeunes parce que, un, eux sont habitués aux réseaux sociaux et c'est ça qui les intéresse le plus, c'est le smartphone et ce qu'il y a derrière. Et puis deux, la plupart des gamins aujourd'hui sont nés et ont grandi dans des villes qui ont fait leur bascule vers le transport en commun. Donc la voiture a perdu cette image que nous avions à leur âge de moyen de transport monopolistique. dans toutes les villes aujourd'hui, c'est le bus, le métro, le tramway, le vélo est là, est revenu, la voiture est moins présente. Donc la voiture est moins présente dans l'imaginaire collectif d'une part croissante de la population européenne. En plus, la voiture, pour un jeune, c'est un coût exorbitant. C'est déjà un coût... Déjà pour le permis, c'est cher. La voiture est chère à entretenir, la voiture est chère à l'achat, la voiture tombe en panne et les réparations sont très chères. C'est un coût gigantesque. Les gamins préfèrent, ils ont raison, dépenser leur argent ailleurs ou le placer, vu qu'en plus on leur dit de penser à leur retraite avant même d'avoir travaillé. Voilà. Donc la voiture n'est plus ce totem social qu'elle a été, c'est devenu un mal nécessaire et un mal nécessaire qu'il faut utiliser au mieux pour qu'il coûte le moins cher possible.
Alors ce que veulent les gens, c'est aussi du confort. Je dis ça parce que donc, la notion de vitesse est en train peut-être un peu de s'évaporer. Les TGV nous ont fait, on va dire, quand même le plus grand bien en partie. Certains vont dire, non, c'est une erreur. Peu importe, je veux dire, ça a redessiné de toute façon la carte de la France. Mais on n'est plus maintenant dans le même registre. Là aussi, c'est intéressant.
Alors, plus du tout. Mais ça, c'est déjà ce que la SNCF avait remarqué depuis des années. Et puis là, cette année, des maires, des élus régionaux ont demandé à ce que l'on sursoie à tous les projets dispendieux de TGV supplémentaires pour simplement qu'on leur redonne à ces élus locaux, des TER rapides. Pourquoi ? Les TER, c'est ce qui transporte mieux les automobilistes. C'est vers les TER que les automobilistes iront et vont déjà. Le succès des TER, il est phénoménal. Mais il est phénoménal pourquoi ? Un, parce qu'on facilite la vie de l'automobiliste en lui donnant des parkings qu'on appelle des parkings relais. Sur les panneaux, c'est PR. Et puis deux, parce que ces trains, contrairement aux TGV, sont confortables. Parce que les gens qui prennent le TER vont bosser avec. Et ils peuvent bosser parce qu'en gros, ils n'ont pas les genoux sous le menton. Donc, ils peuvent poser leur ordinateur.
Ça,
ils
peuvent c'est les avions, ça.
Mais parfois, le TGV, surtout le Ouigo. Et puis, surtout, ils peuvent le brancher, l'ordinateur. Voilà. Comme dans tous les trains d'Amérique du Nord, comme les autocars en Amérique du Nord, dès lors qu'un moyen de transport en commun est pratique, que vous pouvez y travailler, qu'il est agréable, comme par hasard, vous observez ce que les techniciens appellent un report modal vers le train. Donc ce que réclament les élus aujourd'hui, c'est pas de plus. La vitesse, c'est fini. La course à la vitesse est terminée. Dans le TGV, quand vous pouvez travailler, un retard d'une demi-heure ou d'une heure, c'est pas très grave.
On va parler maintenant quand même aussi de toutes les alternatives, parce que ce qui est intéressant, c'est ce monde justement en marche avec d'autres possibilités. Qu'est-ce que vous avez pointé ? Alors, on parle évidemment de l'autopartage, on parle du covoiturage. Tout ceci, on n'en parlait pas il y a 10 ans.
On n'en parlait pas et on en parle de plus en plus. L'autopartage et le covoiturage, on pourrait se dire, on est dans l'épaisseur du trait. Sauf que quand vous regardez ce qu'a fait la SNCF avec Ouigo, son TGV low cost, et sa compagnie de bus, Idébus, les tarifs au kilomètre sont exactement ceux du covoiturage.
Ah, donc ça c'est un vrai signe.
Ça c'est un vrai signe. Oui. De la même façon, la SNCF a racheté Greencov, qui est une société propriétaire d'un des plus grands sites de covoiturage, 1-2-3-en-voiture.com. Voilà, et partout dans le monde c'est la même chose. Le covoiturage, l'autopartage commence à rogner les ailes des moyens de transport en commun lourd. Alors vous allez me dire, ça fait du CO2. Oui et non.
Non, mais ce qu'il faut, c'est remplir.
Faut, c'est la remplir la voiture et qu'elle roule, qu'elle soit pas au parking à ne rien faire. Une voiture, plus elle est remplie, mais c'est la logique de la logistique, si vous voulez. Mieux vaut un camion plein qu'un camion vide. Mieux vaut une voiture avec 3 personnes dedans qu'avec une. Tout simplement, on sait par exemple le taux d'occupation moyen d'une voiture en France, c'est de 1,2. Oui. On sait que s'il passe à 1,4, il n'y a plus de bouchons en théorie.
Ah d'accord, donc ça c'est un peu des calculs mathématiques, mais c'est-à-dire que si on prend...
Si on prend une personne en plus tous les 8-10 jours, ouais. Vous voyez, on arriverait à résorber la plupart des bouchons dans les agglomérations nationales, dans les agglomérations françaises.
Alors glissons maintenant, si vous le permettez, par la voie des ondes du côté de la Franche-Comté. On va aller dans le département de la Haute-Saône. On va rejoindre Yves Cratinger, qui est sénateur et président du Conseil général de la Haute-Saône. Bon, vous êtes un homme qui aimait la voiture, et depuis Vesoul, vous regardez la santé de PSA, on vous comprend. Mais vous êtes bien accroché, dans le bon sens du terme, sur la notion de mobilité courante. Donc on a un petit peu envie d'en savoir plus.
Moi, je me pose la question suivante. Je me dis, la mobilité courante, c'est comme l'eau courante. C'est-à-dire qu'il faut que ça arrive chez chacun. Donc chacun emploie des moyens différents de transport. Les uns partent à pied le matin, ensuite ils prennent le car, ensuite ils repartent à pied et ils arrivent au bureau. Il y en a qui prennent leur voiture et ils se garent, ils marchent à pied, ils vont au bureau. Il y en a qui vont à l'autre bout de la France et ils prennent leur voiture, ils prennent le train, ils prennent le taxi ou l'avion, etc. Donc l'idée quand même, c'est que chacun de nos concitoyens, où qu'il soit et quel qu'il soit, puisse trouver une réponse et que cette réponse ne soit pas forcément sa voiture.
Il s'agit de rendre lisible l'offre de transport alternatif à la voiture.
Il s'agit de rendre lisible, c'est-à-dire il faut que vous habitez ici dans un village. Vous êtes une personne âgée, vous n'avez pas le permis de conduire. Bon. Il faut qu'à un moment donné, sur une centrale que j'imagine nationale, vous arriviez à vous inscrire en disant je suis à tel endroit et je veux aller dans un village du Pays Basque. Et que la centrale qui vous parle vous dise bah, écoutez, on va aller vous chercher en taxi de chez vous pour vous emmener à la gare. Ça sera du transport à la demande, ça ne sera pas forcément un taxi tel qu'on le voit aujourd'hui, mais ça peut être du transport à la demande local. Et en fait, vous bénéficiez de la mobilité courante. Je ne suis pas moi l'inventeur de la mobilité courante, je veux le dire très sincèrement. C'est un ami qui lui aussi est impliqué dans les transports, François Ferrieux, qui est dans l'Oise. Et ensemble, on discute de tout ça et on dit, il y a un moment où chacun doit trouver une réponse. Et c'est à nous, après, dans nos territoires, d'améliorer la réponse.
Yves Fratinger, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une petite révolution. C'est-à-dire que l'on considère le transport autrement que par l'infrastructure.
Ben, on considère qu'il faut additionner tous les modes et qu'il faut essayer de réduire le temps total de transport. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les temps d'attente soient exorbitants, etc. etc. et que celui qui veut l'utiliser, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit comme le robinet qu'on ouvre. Il ne faut pas que ce soit passer 3 heures sur Internet pour arriver à trouver tous les billets, tous les machins, etc. Il y a un moment donné, il faut qu'on vous dise, ben, écoutez, voilà, vous nous envoyez d'accord sur la proposition qu'on vous fait, le logiciel dit ça, quoi, il vous parle, et vous nous envoyez votre accord pour payer ça, et on vous envoie le service. C'est la mobilité courante. Il faut qu'on en arrive là, nationalement. Et nous, localement, dans les territoires, il faut qu'on, bien sûr, on améliore. Si on n'a pas le TAD, le transport à la demande, dans tel secteur, et qu'on est questionné, il faut qu'on arrive à le mettre en place entre le conseil général, la communauté de communes, pour que la personne qui téléphone de tel village pour avoir accès à cette mobilité courante puisse trouver une réponse locale et rapide.
Frédéric.
Oui, Yves Cratinger, vous avez parlé de cloisonnement et vous en parlez dans votre rapport sénatorial remis sur la question. Effectivement, tout est cloisonné parce que à chaque moyen de transport, il y a une compagnie, il y a une autorité organisatrice des transports.
Oui, c'est vrai.
Alors qu'en Allemagne, par exemple, toutes ces AOT ont fusionné dans des syndicats mixtes quasiment à l'échelle du pays. Est-ce que ce n'est pas le vrai problème, ça ?
Alors moi, j'avais fait une proposition dans un rapport sénatorial et j'en ai fait une autre qui vient en complément. La première, c'est, je disais, il faut des syndicats mixtes type SRU, un syndicat mixte entre le niveau régional, le niveau départemental et les autorités organisatrices urbaines. Et dans ce syndicat mixte, je disais, on met l'information multimodale, la billettique intermodale intégrée, l'intermodalité, et je disais toujours, et plus si affinité. La question essentielle, c'est l'interopérabilité de tout ce qu'on va construire.
Tu veux pas que je prenne le volant ?
Non, non. Quand je conduis pas, j'ai peur.
Tu veux vraiment pas que je conduise ?
CO2, mon amour.
Alors, si je remplace ma voiture diesel ou essence par une électrique, Frédéric Noé ?
Vous serez toujours dans un bouchon. Encore une fois, le problème de la voiture, c'est même pas un problème d'écologie. Enfin, le premier problème, c'est un problème de physique. Il y a trop de voitures sur des villes qui peuvent plus les accueillir, c'est tout. Et puis, si on veut en revenir à des histoires d'écologie, donc d'énergie dépensée, j'ai refait les calculs dans tous les sens. Si vous voulez, vous prenez le transport en commun, ça vous coûte 10 centimes par kilomètre. Vous prenez une voiture, ça vous coûte entre 20 et 30 centimes par kilomètre. Les voitures électriques, en supposant qu'elles vont encore s'améliorer, ce sera entre 40 et 50 centimes du kilomètre. Là, c'est juste pour une question d'argent. Après, si on regarde les questions de CO2, la voiture aujourd'hui, en France, hein, en période normale et pas en période de pointe où on fait appel aux centrales thermiques, c'est entre 70 et 80, voire 90 grammes de CO2 par kilomètre. Or, il y a déjà des voitures de marque allemande, des petites voitures, qui sont en dessous de ces 90 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, la voiture électrique, elle n'a... pas grand intérêt.
Notre automobile roule vers l'océan. Des milliers d'arbres qui s'écoulent en feuilles d'argent. M'endormir entre tes bras de temps en temps.
Au vent. Le vélo électrique, c'est autre chose. Mais la voiture électrique, non, c'est une fuite en avant qui ne résoudra pas le problème essentiel de la voiture, qui est l'usage tel qu'il est. Et on en revient au tout voiture.
Alors il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est que dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une perte au fur et à mesure de l'instinct de propriété. À partir du moment où on goûte à l'usage, la propriété de la voiture disparaît doucement.
Ben oui. La voiture, comment dirais-je, est donc passée du statut de totem social à celui de mal nécessaire, toujours trop cher. Et derrière tout ça, quand on veut réduire les coûts, faut augmenter l'usage. Si on augmente l'usage, on prend ou bien la voiture vraiment la moins chère, ou alors on loue, on covoiture, on autopartage. Et sachant que la voiture, c'est quand même le pilier symbolique de notre économie capitaliste, de notre système de consommation, moi je me dis que dans un pays de symboles comme la France, si le symbole de la voiture bascule, le symbole de la propriété pourrait basculer. Et donc la population, d'un seul coup, passait d'une logique de possession à une logique d'usage.
C'est un peu une révolution.
C'est un peu une révolution mentale. On n'imagine pas quand même le poids symbolique qu'encore la voiture. Et donc dès lors que ce symbole est mis par terre, on n'imagine pas les conséquences que ça pourrait avoir.
Alors on peut aussi imaginer la gratuité. C'est le cas de la ville d'Aubagne, par exemple. On l'avait déjà évoqué dans cette émission, donc on ne va pas y revenir. Mais il n'y a pas de solution, on va dire, qui est unique. Une qui nous intéresse bien aussi, mais justement, François Férieux, vous avez été cité par Yves Cratinger. Vous êtes le président de la commission transport au Conseil général de l'Oise. Et puis avec votre équipe, avec cette mobilité courante dont on a déjà parlé, vous avez mis en place le système intégré des services à la mobilité dans l'Oise. Ça s'appelle SISMO. D'ailleurs, vous avez remporté un trophée de l'innovation pour les transports intelligents dans un salon européen. Qu'est-ce que c'est ?
Alors d'abord, il s'agit d'un outil que nous avons mis en œuvre dans l'Oise, mais qui est transposable facilement dans la quasi-totalité des départements ou régions françaises. Mmh. Alors il comporte tout un bouquet de services, l'information multimodale des voyageurs, comme à Paris ou dans les grandes agglos, mais juste dans le hameau le plus isolé, à l'échelle d'un département. Le calcul d'itinéraire intégrant par ailleurs les covoitureurs entre le point A et le point B, en plus que des cars et des bus, etc., on leur propose des covoitureurs à joindre directement. Le service téléphonique pour réfractaire à Internet, et ça existe. La billettique, une sorte de passe Navigo de l'Oise qu'on appelle de passe Oise Mobilité, en cours d'intégration, c'est-à-dire possibilité d'avoir non seulement ce billet unique, mais une tarification négociée. Donc on a fait tout ça, et il a fallu pour le faire une collaboration quotidienne avec toutes les villes, le département et la région. Dans les milieux ruraux ou suburbains un peu denses, seule la voiture est capable d'apporter ce service, la mobilité courante. Comme l'eau courante, la métaphore est compréhensible. Le but est qu'une chaîne de mobilité soit offerte entre A et B à M. Dupont ou Mme Michu. Cela n'exclut pas totalement la voiture sur une petite étape, j'insiste bien sur ça. Il peut rester une petite étape en voiture, mais globalement, on veut le faire par les autres modes, notamment les cars, les minibus et les motos doux. Je prétends, je persiste et je signe qu'on pouvait faire le SISMO dans tout le département français.
Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. C'est la voiture maniable, la voiture idéale pour la ville. Et voilà, au volant d'une 4 chevaux, on est tout de suite à son aise. Il n'y a pas au monde de voiture plus féminine, plus facile à conduire. Je suis sûre que la 4 chevaux vous étonnera. Et seulement 6 litres aux 100 km.
CO2, mon amour, Denis Chessy.
Donc, nous essayons d'ouvrir dans cette émission quelques possibles nouveaux, de ce changement de civilisation. Frédéric Danhé, nous sommes a priori sur un changement de simplification. Là, on parle de choc de simplification, mais pour le client, l'usager, comme vous voulez que nous sommes, c'est quand même souhaité.
Oui, exactement. De la même façon que ce que nous ont expliqué Cratinger et Férieux, on réunit toutes les AOT, les autorités responsables des transports, pour délivrer une information simple et claire, sans qu'on se pose de questions, à tout moment, en temps réel. Bon, et bien de la même façon, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un billet commun. Alors le billet commun, c'est très compliqué, parce que c'est des comptabilités différentes, voilà, il faut faire un partage de rentes, de bénéfices, etc. C'est très compliqué. Néanmoins, il faut en arriver à ça, et on a les villes qui ont mis ça en place, des billettiques communes, c'est Paris mais il y en a d'autres. Il y a Lille, par exemple, là, qui vient d'expérimenter son ticket commun passe-passe, et ça marche très bien. Donc, toutes ces villes ont remarqué une hausse sensible, 30 à 40% de l'usage des transports. Et on va même au-delà de ça, c'est-à-dire plus de billets physiques. Le billet, il est dans le téléphone, par exemple, dans le téléphone portable. Là, il y a la ville de Valence qui a expérimenté une petite puce qu'on vient coller sur son téléphone et on passe devant un lecteur. Et voilà. Et ça va même encore plus loin que ça. C'est non seulement le billet est électronique, mais en plus le billet, vous n'avez plus à vous poser la question de savoir quel tarif vous allez prendre, parce que ça, c'est insupportable. Et personne n'est capable en France de lire la tarification des transports, pardon. Non, c'est vous payez après. Ce qu'on appelle le post-paiement, c'est quand même une invention géniale. Il y a Tours qui a mis ça en place, il y a Angers qui a mis ça en place, il y a Valence qui a mis ça en place, Belfort également. C'est-à-dire que vous prenez votre ticket, vous inquiétez pas du tarif, et à la fin du mois ou le mois suivant, on vous facture, et on vous facture au meilleur tarif possible, qui reste très légèrement supérieur au tarif d'un abonnement mensuel. Et ça, c'est... Il fallait quand même y penser, mais ça paraît très simple, si vous voulez. La plupart des gens qui utilisent les transports en commun l'utilisent 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine, c'est trop cher au ticket. Mais si vous prenez l'abonnement la semaine, c'est encore plus cher. Et donc, vous êtes là sur un creux et il n'y a pas de tarif pour vous. Avec le post-paiement, finalement, il y aura toujours le meilleur tarif qui s'applique à vous. Et ça favorise forcément l'accès au transport en commun.
Covoiturage et autopartage, Frédéric Doré.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se développe à tel point que la SNCF s'en inquiète et voit ça comme de la concurrence. Oui, ça se développe et c'est très simple. Et c'est bien dans ce qu'on appelle ces systèmes d'information multimodaux dont a parlé Cratinger et Ferrieux, ces systèmes où tout est relié ensemble. C'est extrêmement simple. Par exemple, le Conseil général de l'Isère a créé un site qui s'appelle Ecovoiturage. Vous êtes sur votre smartphone, vous êtes abonné à ce service, vous dites « je suis là, je veux aller là ». Aussitôt sur le réseau, quelqu'un réagit ou pas, mais vaut mieux, quelqu'un réagit, vous dit moi je peux y aller, je peux vous prendre là. Il y a un échange de numéros de code sécurisés et un échange d'argent au moment où vous arrivez dans la voiture et tout ça est géré de façon extrêmement transparente par le Conseil général de l'Isère. Voilà, c'est simple et ça fonctionne. Et la vraie révolution du transport, elle est là. Encore une fois, c'est tout ce qu'on appelle ces systèmes d'information multimodaux, ces SIM, qui font que on simplifie tout. Ça et la prise électrique dans le train, c'est voilà, on a tout compris.
Frédéric Danhué, ce monde en marche, enfin en marche avec nos gens, mais en marche d'une manière générale, c'est quand même, on peut être assez optimiste. Comment est-ce que ça bouge assez vite
hein. Ça bouge vachement et on ne se rend pas compte à quel point ça bouge. L'évolution de l'usage des transports, il est phénoménal. Avant, il y a encore 20 ans, la voiture était l'alpha et l'oméga de l'aménagement urbain. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Et même dans les zones rurales, même dans les zones périurbaines, l'usage de la voiture est en train de changer. Donc on va vers un monde où un contraignant, la voiture est devenue une contrainte. Ça n'empêche pas qu'elle puisse faire rêver. Moi, vous mettez une Aston Martin entre les mains, je suis heureux comme tout.
Oui, parce que vous avez un côté James Bond.
C'est ça, c'est mon côté James Bond. Bien sûr.
Les hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille. Mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme.
Moi, j'aime la voiture, mais la voiture, elle m'a appris, elle a dégoûté parce que la voiture, c'est les bouchons, c'est les accidents, c'est de la pollution et c'est un coût qui est phénoménal. Donc, si on veut que la voiture...
Donc, on ne peut pas se passer, on le rappelle, hein, en ruralité,
évidemment,
etc.
Personne ne peut se passer de voiture. Il n'y aura jamais des tramways jusqu'en zone rurale. Non. Mais si on veut continuer à rêver avec la voiture et si les fabricants d'auto veulent continuer à nous faire rêver à la voiture, paradoxalement, il faut qu'ils nous incitent, il faut que la société nous pousse, que nous nous poussions nous-mêmes à en augmenter, à en changer l'usage. Voilà, la voiture avec une personne dedans, la voiture pour faire tous les trajets, c'est terminé. Et dans ce cas-là, finalement, on n'utilisera plus la voiture que pour se faire plaisir et pour les trajets les plus longs, les plus coûteux autrement. Mais voilà, la voiture peut continuer à exister si elle continue à nous faire rêver et elle continuera à nous faire rêver si elle ne sert pas à tout, tout le temps.
Il a l'argent, il a le pouvoir.
Il aura la femme.
Et il aura peut-être la fin du tout voiture, l'essai de Frédéric Danhué chez Actes Sud, que vous retrouverez d'ailleurs au Festival du Livre ce week-end de Moins-Sartou. Si vous êtes basque, alors là, intéressant aussi, Alternatiba, là, ce week-end, pour un monde meilleur en relevant le défi climatique. C'est à Bayonne. La semaine prochaine, vous aurez les entretiens de Sologne, anciennement entretien de Millancey, avec Philippe Desbrosses et toute son équipe. Je vous signale aussi que jeudi 10 à Paris, je continue mon agenda.
les premières rencontres de reporters à la Belle Lilloise à Paris avec Pierre Rabhi et Jacques et Charles Piaget pour un monde du travail et de l'écologie qui sont réunis, qui ont des points communs. Et puis je n'oublierai pas un petit colloque sur la pollution, sur les nuisances aériennes qui aura lieu samedi prochain dans la matinée au Conseil régional d'Île-de-France sur les nuisances aériennes. Ça touche quand même un bon quart des franciliens. Voilà, vous savez à peu près tout. Vous retrouverez ces informations sur le site de CO2 Mon Amour. Merci à Fabrice Lègle, notre réalisateur, Séverine Bouvard, Ludovic Asselot et Alexandra Berger à la technique, à Albert Houck, Denis Chessou. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec plaisir. Demain pour ce soir, demain dimanche, pour l'atelier Mon Petit Loup et Vivre avec les bêtes. Ben, je vous le signale, je vous le rappelle, hein, c'est le dimanche à 15h.